Alors voilà, j'ai voulu porter cette méditation aujourd'hui sur ce sujet parce que nous entendons tellement de choses, que ce soit dans les médias ou dans notre entourage. J'aimerais essayer une parole qui sorte de la dualité entre les pour et les contre, pour les Juifs contre les Palestiniens ou pour les Palestiniens et contre les Juifs. J'aimerais essayer de dissocier le peuple juif dans sa tradition et sa foi d'avec le gouvernement israélien, mais c'est difficile de ne pas voir ces deux peuples opposés frontalement. Ce que j'entends, c'est que la douleur est des deux côtés et elle s'étend à d'autres pays dans le monde. Les actes antisémites sont en recrudescence en France. Malheureusement, les chrétiens ont leur part dans les persécutions du peuple d'Israël et je crois qu'il faut se remettre devant cette réalité qui a été la nôtre pendant des siècles. On a accusé les Juifs d'avoir tué Dieu en tuant Jésus-Christ. On parle de peuple déicide dès le IIe siècle. Et cet argument a servi à l'Église tout au long des siècles pour justifier les massacres, les croisades, les pillages, jusqu'à la destruction massive et industrielle de 6 millions de Juifs par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, vous avez entendu comme moi ce texte de l'apôtre Paul aux Romains. Un texte qui clarifie sa position, parce que parfois on peut l'accuser d'antisémitisme. Mais il montre ici combien il accorde d'importance à ce relais entre les deux alliances. Le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple. Jésus était juif. L'apôtre en parle comme d'un arbre, un olivier auquel on a retiré quelques branches et greffé d'autres branches. Et il dit, en s'adressant à son lecteur chrétien, « Tu profites maintenant de la sève, montant de la racine de l'olivier. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. » Le théologien Michel Leplay, décédé en 2020, a écrit un petit livre à ce sujet, qui s'intitule « La racine qui te porte ». Pour approfondir cette réflexion, vous pouvez en effet lire ce livre. Monsieur Leplay faisait partie de l'amitié judéo-chrétienne et en avait reçu le prix. Et il explique combien la confrontation entre l'Église des premiers chrétiens, l'Église naissante, a été conflictuelle dès le début avec les communautés juives de l'époque. Et ceux qui viennent au partage biblique, ça me permet de faire une petite page de pub, eh bien nous sommes dans l'Épître aux Galates. Et nous nous en rendons bien compte. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut garder des traditions liées à la foi juive, comme la circoncision, ou pas? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Jésus vient de cette tradition de la foi juive. Il vient du peuple de la première alliance et lui-même devient charnière entre les deux alliances, en apportant la nouvelle alliance. Et quand on prendra la Sainte Cène, on a cette phrase, la nouvelle alliance, en mon sang. Et c'est avec ce texte de l'évangile de Jean que j'ai voulu la mettre en évidence. Comment ce récit au pied de la croix peut-il nous aider à la comprendre? Alors je me suis inspirée d'un commentaire de Xavier Léon Dufour, un autre théologien, que je trouve très intéressant dans son analyse de texte. Cela commence par un regard de Jésus sur sa mère et le disciple qu'il aimait. Vous avez remarqué, on ne dit pas qu'il regarde Marie et Jean. Et même si on dit Marie et Jean étaient au pied de la croix, jamais l'évangile de Jean ne les nomme par leur nom. Il les nomme par leur relation à Jésus, sa mère, relation filiale, et le disciple que Jésus aimait. Et cet auteur, en faisant cela, élargit l'identité de chaque personne. Et comme souvent chez Jean, dans l'évangile de Jean, chacun des personnages a souvent une portée symbolique. Par exemple, vous connaissez la figure de Thomas, elle n'est que dans l'évangile de Jean, et elle va symboliser les personnes qui ne veulent pas croire sans voir et sans toucher. Et les personnes de Marie et de Jean, c'est la même chose. C'est pas juste la personne de Marie et la personne de Jean. Alors, pour comprendre à quel symbole il renvoie, regardons à quel moment on parle de la mère de Jésus dans un autre endroit de l'Évangile. Il n'y en a qu'un seul. C'est au tout début de l'Évangile, au moment du premier miracle qu'on appelle les noces de Cana. Vous savez, quand Jésus change l'eau en vin. Là, Jésus arrive au mariage avec ses disciples et le texte nous dit « Sa mère lui dit, ils n'ont pas de vin. » Et Jésus lui répond, une réponse un peu dure, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y a donc une attente de la part de la mère de Jésus. Elle peut alors représenter l'attente de l'Israël fidèle, qui était en attente du Messie. En effet, l'attente du Messie était très forte dans ce peuple avant la venue de Jésus, à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'on parle des antéchrists, parce qu'il y a des gens qui se présentent comme le Messie, mais qui ne le sont pas. Et par le Messie, le peuple attend le salut promis par Dieu. Alors Jésus n'appelle pas sa mère « maman » ou « mère », par son lien de filiation, il dit « femme ». Et de la croix, Jésus dit à sa mère « femme, voici ton fils ». Alors évidemment, c'est un texte de l'Évangile qui a été interprété d'une manière extrêmement extrapolée pour justifier notamment la piété à Marie, mais c'était sans doute pas l'intention de Jésus et pas l'intention de l'auteur qui a écrit l'Évangile de Jean. Et on pourrait faire le lien aussi avec d'autres images. De nombreuses fois, dans les prophètes de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est représenté comme une femme. Alors une femme qui est fidèle, une femme qui est infidèle, on trouve de tout, mais c'est cette image-là que l'Ancienne Alliance, que la Première Alliance utilise pour parler du peuple, une femme aimée par Dieu. Et là, Jésus dit « Femme, voici ton fils ». Cette femme va être confiée par Jésus aux disciples que Jésus aimait. « Voici ton fils, voici ta mère ». Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors ce disciple, dans l'évangile de Jean, c'est celui qui est montré comme le plus proche de Jésus. On l'a identifié à Jean plus tard. Mais les textes nous montrent qu'il est le dépositaire de la foi, qu'il est le garant de la révélation du Fils. Les autres évangiles vont mettre une autre personne en avant, ils vont mettre la personne de Pierre. Et on voit là qu'il y a vraiment deux traditions différentes dès le départ. Et Xavier Léon Dufour dit ceci, « La femme partagera désormais l'univers spirituel qui s'est ouvert aux disciples que Jésus aimait. » Le disciple reconnaîtra sa propre mère, c'est-à-dire que sa foi s'enracine et se ressource dans celle d'Israël, premier destinataire de l'Alliance et porteur des Écritures. La mère est celle qui précède. C'est la figure d'Israël qui précède les chrétiens. Et il y a là une demande directe de Jésus d'accueillir ce peuple dont il vient, dont il a été nourri, et avec qui Dieu avait conclu la première alliance. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Vous avez entendu, on parle de l'heure. Ce n'est pas encore mon heure, et à partir de cette heure-là, l'heure dans Jean est très importante. C'est l'accomplissement, le temps de l'accomplissement. La mère peut reconnaître dans le disciple bien-aimé que la révélation de Jésus est l'aboutissement de son attente. Et après notre passage, Jésus va dire trois fois, deux fois, tout est accompli. Tout est accompli une première fois, ensuite il va demander du vinaigre pour que l'Écriture soit accomplie, et en mourant, il va dire, tout est accompli. L'aboutissement de l'attente fidèle du peuple élu s'est accompli. La relation établie par Jésus vise le rassemblement des enfants de Dieu, qui est l'achèvement de l'œuvre confié au Fils par le Père. Alors ce rassemblement, ben, on sait qu'il ne s'est pas fait pendant tous ces siècles. Et les siècles ont passé, avec tous les drames que l'on connaît. Et après la Shoah, il y a eu une étape décisive, il y a eu un avant et un après. Le choix d'un certain nombre de rescapés de vouloir habiter un État juif partait de cette douleur, de ne pas avoir de lieu pour habiter en sécurité. Mais la terre de Palestine était évidemment habitée aussi. Alors, cette situation qui était inextricable entre les puissances coloniales, entre les pays qui étaient autour, il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence et ils se sont appropriés ce pays pour y vivre. Et en 1948, c'était la première fois depuis 2000 ans que le peuple d'Israël avait un État à son nom. Et quand on revient en arrière, dans le texte de Luc, il parle des larmes de Jésus devant Jérusalem. « Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, et quelle actualité dans cette phrase ?» Dans un autre passage de Matthieu, avant d'annoncer la destruction prochaine du temple de Jérusalem, Jésus se lamente encore en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. » Oui, j'ai l'impression, en tout cas, 2000 ans après, la plainte de Jésus et ses pleurs me parlent parce que j'ai le sentiment que nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous assistons impuissants aux horreurs perpétrées par les deux camps, aidés par d'autres puissances qui les arment. Aujourd'hui, j'aimerais que les pleurs de Jésus soient notre seul lieu de regard et de compassion. Nous ne pouvons pas comparer les souffrances. Aucune violence ne peut se justifier par la souffrance qui l'a précédée. Pourtant, ça, c'est un fonctionnement qu'on peut même avoir individuellement. Parce que je souffre, alors je vais être violent avec toi. Chaque peuple a le droit de vivre en paix sur un territoire dédié. Mais les passions que cela entraîne montrent que le sort de ce petit pays ne pourra jamais laisser personne indifférent. Il est important de comprendre dans l'histoire, par l'histoire, la raison d'agir de chacun. Mais rien ne peut justifier la violence qui prend des vies. D'un côté, il y a des roquettes qui tombent aveuglément, il y a des otages à récupérer, dont un certain nombre sont déjà morts. De l'autre, il y a le bombardement des populations sans défense, sur des enfants, des femmes et des hommes qui n'ont pas voulu cette guerre. Alors, à la fin de cette méditation, je peux dire que se posera la question de la justice, car il n'y a pas de paix sans justice. Mais les injustices s'enracinent tellement profondément qu'il n'y en a qu'un seul qui pourra véritablement faire justice. La justice humaine, elle fera ce qu'elle pourra. Mais nous pouvons mettre notre espérance en Dieu, celui qui a fait alliance avec son peuple d'Israël et celui qui a fait une nouvelle alliance en envoyant Jésus-Christ pour le salut du monde, pour le salut de tout être. Oui, notre espérance est en ce Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par Jésus-Christ. Nous allons bientôt entrer dans la préparation de Pâques. C'est en mourant sur la croix que Jésus se relie à tous les êtres qui souffrent dans le monde entier, ici, là où nous vivons, et au loin. Et c'est en ressuscitant Jésus que Dieu nous fait entrer dans une réalité nouvelle, dans une espérance nouvelle, dans une espérance qui commence aujourd'hui, maintenant. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen.